Ce personnage-là était toujours dans l'ombre. C'était un lointain. Une boule noire le suivait, une aura noire. Et plus les autres personnages étaient proches de lui, plus ils étaient dans le noir. Plus on s'éloignait de lui, plus ils étaient à la lumière.
Benjamin Fragmente.
Benjamin Fragmente.
Benjamin Fragmente.
Benjamin Fragmente.
Benjamin
Fragment Benjamin.
Benjamin Fragmente.
Fragment Benjamin.
Surpris par la nuit. Qui a lu Walter Benjamin? Bruno Tackels, Marie-Christine Closet.
Être écrivain signifie donner des concerts des pensées. Et si les pensées sont les instruments pour lesquels la langue compose les notes, la tête des auteurs doit être bien mieux pourvue d'instruments que ne le suppose le lecteur rapide. C'est qu'il reste la plupart du temps silencieux pour n'intervenir qu'au moment voulu, obéissant à la baguette du chef. 1929-1930.
Comment a-t-on reçu l'œuvre de Benjamin en France? Qu'en a-t-on pris et dans quel champ, dans quel sens? Malgré leur étonnante diversité, est-il si sûr, comme on l'entend souvent, que ces réflexions ont réellement pénétré et influencé le champ de la modernité? Benjamin n'est-il pas resté, malgré un succès d'estime indéniable, une force souterraine qui n'affleure que dans quelques œuvres singulières et qui ne sont pas toujours celles que l'on croit? Qu'il s'agisse de littérature, de théâtre, de cinéma ou d'art plastique, il apparaît que son œuvre ne permet aucune instrumentalisation immédiate. Benjamin n'a pas et ne peut sans doute pas faire école. Ceux qui le lisent procèdent par emprunt, rapt et citation, prolongeant le brigandage citationnel que Benjamin appelait de ses vœux. Le lecteur est comme gagné par cette manière de penser, et très vite, il devient à son tour un flâneur de textes, cette étrange figure moderne, chez qui l'étude et l'oisiveté sont indémêlables. Catherine Perret, quand on travaille sur Benjamin en le regardant comme ça, comme quelqu'un qui suspend la logique du livre, est-ce qu'on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui s'empêche lui-même de faire une œuvre?
Oui, alors je revendiquerais totalement la catégorie de l'essai, dans la mesure où, au fond, il y a quand même une grande tradition européenne de l'essai qui est fondée, je crois, sur l'idée qu'un sujet va se laisser aspirer, absorber, au fond, par son objet, hein, et que, au fond, la pensée n'existe que suscitée par des objets. et que donc elle ne peut peut-être plus se déployer sur la grande scène de la représentation. Alors c'est peut-être là effectivement où on rejoint la question de l'empêchement chez Benjamin. Donc quand même toute l'œuvre, ou du moins toute la réflexion, procède d'une critique de toute pensée qui serait éthique et qui se donnerait sur le mode justement d'une pensée qui fait école, et qui est une réflexion sur qu'est-ce que ce serait au fond qu'une œuvre qui s'interdirait de jouer sur la scène de la représentation, et donc qui s'interdirait du même coup le livre. Ça m'amène effectivement dans un deuxième temps à travailler sur l'espèce d'implosion qui travaille véritablement ce corpus benjaminien et qui l'empêche de se constituer en œuvre.
Et qu'un des éléments de ce processus d'implosion, c'est le recours de plus en plus important, vous l'avez montré très bien, de la citation. Comment le geste de citation de l'œuvre des autres, d'œuvre du passé, est au fond finalement une espèce de, à la fois de nécessaire recours sans lequel on ne peut plus avancer, mais qui en même temps est un geste terriblement, je dirais, menaçant, inquiétant, parce que c'est un geste qui, là encore, enlève le sol sous les pieds.
Oui, effectivement, je crois que la citation, il y a deux perspectives pour l'analyser. Il y a effectivement la citation et le moteur même de cette critique de la représentation. Et là, Benjamin annonce, au fond, d'une certaine façon, la pensée de Foucault. C'est-à-dire qu'il y a un traitement chez Benjamin du texte d'autrui, exactement comme Foucault peut penser l'énoncé. De telle sorte que Benjamin va s'intéresser non pas à tel texte en tant qu'il est mu par un principe d'autorité, et en tant qu'il va représenter un auteur, mais il va s'intéresser, aux matériaux textuels d'une époque, par exemple du 19e siècle, dans lequel il va découper des fragments pour, à partir de ces fragments, disons, reconstituer, au fond, ce qu'il appelle l'image dialectique de cette époque. Bon, ça, on pourrait dire, c'est le versant théorique de la chose. Donc, la citation participe de cette critique de la représentation, de cette critique de l'auteur, de cette critique du livre, mais entraînée par, d'une certaine façon, la logique de sa pensée, Benjamin, je crois, se voit reconduit à une pratique mimétique du texte d'autrui, où, poussé par cette pratique de la citation, il en vient, au fond, à hanter, puis à être hanté par le texte d'autrui, et par fabriquer une espèce, j'allais dire, de... par, au fond, ne plus écrire qu'en tant que doublure de lui-même. De telle sorte qu'il y a un moment où, effectivement, le jeu qu'il s'était interdit, écrire un texte sans jeu, c'est quand même le point de départ des passages, eh bien, ce jeu n'a effectivement été, on pourrait dire, expulsé du corpus, et du coup, il n'y a pas d'œuvre.
Motto: O braungebackene Siegessäule mit Kinderzucker aus den Wintertagen. Ich habe in Berlin nie auf der Straße gelegen. Die Abendröte habe ich gesehen und die Morgenröte. Zwischen beiden aber war ich untergekrochen. Nur die wissen von einer Stadt etwas, was ich nicht erfahre, denen das Elend oder das Laster sie zu einer Landschaft machte, die sie durchstreifen von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Ich habe immer ein Quartier gefunden. Manchmal allerdings war es ein spätes und ein unbekanntes dazu, das ich nicht wiederbezog und in dem ich auch nicht allein war. Wenn ich so spät unter einem Hausbogen innehielt, hatten sich meine Beine in die Bänder der Straße verwickelt. Und die saubersten Hände waren es nicht, die mich freimachten.
Silbern klingt und springt die Heuer, heut spielig dat feine Oos. Heute da ist mir nichts zu teuer, morgen geht ja die Reise los. Langsam bummel ich ganz alleine, die Rebhoppa nach der Freiheit.
Vous disiez Benjamin hanté par le jeu des autres, c'est ce qu'on voit très clairement dans un petit texte qui se trouve dans l'enfance berlinoise, et où il parle d'une photographie de Kafka, dans un autre texte en réalité. Et puis, dans l'enfance berlinoise, il reprend cette photographie, mais en se l'attribuant à lui-même.
Oui, oui, c'est un texte très, très curieux qui est intitulé La Commerelle, hein, donc qui fait partie d'Enfance berlinoise, que je pourrais d'ailleurs lire.
Oui, laissez-le-nous.
Où il commence par évoquer l'une des photographies d'enfants où il figure, après nous avoir dit qu'il lui est impossible, là je le cite, d'être semblable à sa propre image. Hein. Semblable à ma propre image, jamais. Et c'est pour cela que je devenais si désemparée lorsqu'on exigeait de moi une ressemblance avec moi-même. Cela se passait lors des séances de photographie. Et là, il évoque une première photographie qu'effectivement, on peut retrouver dans les biographies de Benjamin, hein, qui existent. Et il enchaîne sur une seconde photographie. Pourtant, le sourire torturé sur les lèvres du petit montagnard, première photographie, n'est pas aussi désolant que le regard du visage d'enfant à l'ombre du palmier d'appartement, ce regard qui me transperce. Le palmier provient d'un de ces studios qui, avec leurs escabeaux et leurs trépieds, leurs tapisseries et leurs chevalets, ont à la fois quelque chose du boudoir et de la chambre des tortures. Je suis là, tête nue, dans la main gauche un énorme sombrero que je laisse tomber avec une grâce étudiée. La main droite est occupée par une canne dont on voit le pommeau au premier plan, tandis que son extrémité se cache dans une touffe de plumes d'autruche qui s'épanche d'une table de jardin. Bon. Et ce qui est très très impressionnant dans ce portrait, c'est qu'en fait c'est la reprise quasiment littérale d'une photographie de Kafka qu'il décrit dans le texte sur l'histoire de la photographie, comme si au fond il ne pouvait parler de lui enfant que sous le masque d'un autre, sous le masque d'un autre qui à l'époque est mort, qui plus est.
La réception de l'œuvre de Benjamin, de par son caractère protéiforme, on a souvent dit que cette réception était problématique, était empêchée, était peut-être même impossible. On peut faire l'hypothèse d'ailleurs que Benjamin lui-même n'a pas donné toutes les clés pour être véritablement reçu. Comment est-ce que vous pensez cette question, oui, ce phénomène de la réception ?
Sur la question de la réception de Benjamin, je crois que il y a effectivement cette plainte qui est une plainte que moi je connais depuis à peu près le jour où pour la première fois j'ai ouvert un livre de Benjamin. Une plainte qui semble aussi indestructible que la plainte que, selon Benjamin, la nature adresserait au créateur si on lui donnait la parole. Donc, avec en général trois incriminations, une qui vise l'édition française, l'édition des œuvres, ce qui d'une certaine manière est vrai.
L'édition des œuvres est éclatée, c'est le moins
qu'on puisse dire. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est vrai que la situation est paradoxale à propos de l'édition et de la publication des œuvres de Benjamin. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de publication d'édition des œuvres complètes de Benjamin. Et ça, c'est effectivement un défaut de l'édition française.
Oui, j'allais dire, vous ne pensez pas que c'est vraiment typiquement français que de ne pas savoir fabriquer des œuvres complètes, Christophe Jourlan ?
Alors, c'est vrai que par rapport à la situation de l'Allemagne, par exemple, l'édition française semble beaucoup moins capable ou avoir beaucoup moins de goût pour les œuvres complètes. Encore qu'il ne faut pas oublier, bien entendu, que ces œuvres complètes existent. La Pléiade est, après tout, sans doute une très célèbre collection, en tout cas, d'œuvres complètes. Mais c'est vrai que par rapport à l'Allemagne, où on trouve dans toutes les librairies les œuvres complètes de Nietzsche en un seul coffret, ou les œuvres complètes de Benjamin en un seul coffret, pour des prix qui sont effectivement très, très bon marché, il y a une différence. Ça peut tenir à l'histoire de l'édition française. Ça tient aussi très probablement au lien de l'édition et de l'université. Hein. Les œuvres complètes, c'est toujours l'université qui les édite. Et donc là, peut-être qu'effectivement, pour les œuvres complètes de Benjamin, il y a le problème qui tient à la nature de l'œuvre de Benjamin, hein, et peut-être aussi à sa difficile réception à l'université.
Pourquoi les lettrés allemands écrivent aussi mal? Il est nécessaire pour développer cette question d'en revenir à Kant. L'effet paralysant du conformisme, la disposition aux petits compromis, la conscience de fournir des citations leur est absolument étrangère. Ils n'ont jamais été cités sous le coupole. Le style d'Hegel, par-delà le bon et le mauvais allemand. Heidegger, qui se complaît dans un style irritant, qui a conscience d'irriter, d'être exposé, surveille son style. Quand on monte sur scène, on surveille sa démarche. Qui doit se préparer à l'idée de bondir un jour ou l'autre sur la scène politique mondiale, surveille sa démarche, soigne son entrée. L'écrivain qui compte être cité surveille son style. Fragment écrit entre 1935 et 1939.
Lire Benjamin aujourd'hui en France, et depuis, je dirais, au moins une quinzaine d'années, c'est tout à fait possible. Enfin, donc l'édition française a peut-être des manques, mais enfin, ça n'empêche pas la lecture. Moi, je pense que la réception de Benjamin a commencé quasiment dès le début. Enfin, mais ceci dit, il faut aussi entendre ce qu'il y a de vérité dans cette plainte, et peut-être ça tournerait autour de ce que vous avez dit, à savoir qu'effectivement, dans l'œuvre de Benjamin elle-même, il y a peut-être quelque chose qui se défend contre sa propre réception.
Et qui ferait par exemple qu'on ne pourrait pas faire école à partir de Benjamin.
Que oui, absolument.
Personne ne peut s'en réclamer comme d'une autorité qui viendrait fonder un mouvement.
Oui, encore que la question d'autorité, ça a été aussi reproché à Benjamin. On a dit que c'était un penseur de l'autorité et un penseur au fond autoritaire. Mmh. Et je crois que là, oui, il y a effectivement une confusion. Le simple fait qu'on puisse parler ici de réception suppose presque déjà la pensée de Benjamin, c'est-à-dire qu'en fait la théorie de la réception, l'esthétique de la réception, a pour présupposé la pensée de Benjamin elle-même. Hans Robert Jaus, dans son livre pour une esthétique de la réception, a après tout comme l'un de ses interlocuteurs essentiels Walter Benjamin. Donc déjà dans l'idée même qu'on puisse poser la question de la réception de Benjamin, il y a déjà une réception de Benjamin.
Dans ce que vous dites là, Christophe Jourlin, ça voudrait presque dire qu'au fond, la réception de Benjamin passe forcément par d'autres. Parce que ce que vous dites, on pourrait aussi le dire d'Adorno, on pourrait le dire de Brecht.
Absolument.
On a le sentiment que beaucoup de gens ont pu, d'une certaine manière, ingérer, intégrer, faire infuser, laisser infuser en eux la pensée de Walter Benjamin.
Oui, absolument. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose de très important. C'est-à-dire que, et je crois que c'est en ce sens-là qu'il faut entendre le terme de réception. Enfin, il est évident que, dès le départ, Benjamin est entouré... Il y a autour de lui des échanges intellectuels avec des figures aussi importantes que Scholem, évidemment, hein, que Adorno, que Ernst Bloch, que bien d'autres, on pourrait citer des noms à l'infini. Et en France, bien sûr, Klossowski, Bataille, etc.
Klossowski, non pas écrite, parce que c'est un entretien qui a été, je crois, c'est dans les années 85, je crois.
Jacques Henric.
Et qui a donné lieu à un livre qu'on trouve difficilement aujourd'hui, sans doute doit-il être épuisé, mais enfin c'est un livre assez passionnant. Et dans cet entretien, Pierre Klossowski évoque la figure de Walter Benjamin, qu'il a évidemment beaucoup connu au moment du collège de sociologie. Dans ce passage, Klossowski évoque les émigrés allemands qui venaient nombreux à ces réunions du collège de sociologie, et il parle à un moment de l'érudite figure de Walter Benjamin. Benjamin se sentait mal à l'aise dans l'église marxiste. Il ne pouvait y épanouir en un sens universel sa propre puissance poétique. Je crois que c'est important d'ailleurs là, que Klossowski parle de puissance poétique, parce que c'est en général, on parle beaucoup de la pensée, du penseur, du philosophe, et on oublie un peu aussi l'écrivain, et notamment le poète, bien que la puissance poétique passe, pas forcément bien entendu dans des poèmes, mais dans des textes de fiction, dans des nouvelles, ou même dans ces textes théoriques. Bataille reconnaissait la très haute conscience morale de Benjamin, cette conscience vigile, cachant sous des dehors figés, rigides, autoritaires, une âme d'ange. Car c'était vraiment un individu angélique. Et Bataille avait cette phrase que je trouve très belle. « comme un enfant à qui l'on aurait collé des moustaches, disait encore Bataille. Presque tous les surréalistes étaient anti-staliniens. Nous-mêmes ne l'étions pas moins. Aussi avions-nous été frappés à l'une des conférences de Kojève, Bataille et moi, d'entendre que pour Hegel, selon Kojève, la vérité eût dépendu du nombre des mitrailleuses. De son côté, nous sentions vers la fin Benjamin de plus en plus distant à l'égard du marxisme, qui, à l'instar d'Adorno ou d'Horkheimer, était resté à ses yeux un instrument privilégié d'exégèse. On devinait en lui le souvenir de la génialité d'Isaïe. C'était une humanité juive qui ressurgissait dans le sens de la plus pure tradition. Très attentif aux séances du collège, soucieux d'observer comment nous nous démarquions du surréalisme ou interrogions le fascisme, il n'avait pas tout à fait tort quand il tentait de nous prévenir contre d'éventuels dérapages. Alors l'intervieweur pose la question à Klossowski, quelles étaient les réactions de sa part? Je dirais d'abord, et là c'est, vous allez voir, c'est assez amusant la description physique que fait Klossowski, je dirais d'abord que dans le port de tête, Benjamin avait l'allure de Chanteclerc, le chant du coq qui sonne le réveil de tous les esprits libres. Sa démarche était d'un paralytique, sa gesticulation carrée. C'est un homme sentimental, prononçait-il devant l'athéisme larmoyant d'Horkheimer, dont nous traduisions ensemble les conférences et que je venais de voir à l'hôtel Lutetia, personnage fort prétentieux. Benjamin était aussi accompagné d'Adorno, figure crapaudine, échappé du bestiaire gothique, un crapaud fin, qui ressemblait tout à fait à Peter Lorre dans Même le maudit, les yeux à fleur de peau, les doigts écartés d'un masochisme foncier. Comme il me demandait ce qu'étaient nos activités du collège de sociologie, moi, hors de propos, inventer de nouveaux tabous. Adorno, n'avons-nous pas déjà assez de tabous? Benjamin hochait la tête. Question, n'avez-vous pas traduit la longue étude de Benjamin, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée? Et alors là, Klossowski dit, je préférerais oublier la semaine terrible qu'il me fit passer, travaillant jour et nuit à rectifier mon texte avec lui. Benjamin m'avait prise en charge. Il me chaperonnait. C'était ma gouvernante qui cachait, comme j'ai dit, son âme angélique. Outre cela, quelque chose d'efféminé dans son hystérie. Une humeur massacrante, horriblement maniaque. Certes, je ne cessais de tirer profit de son érudition sans faille, sinon qu'il protestait, m'appelant au téléphone, « Pourquoi faut-il que ce soit toujours moi qui vous rappelle ?» Traduire avec lui était une souffrance, sans commune mesure avec le résultat obtenu. À propos de Nietzsche et les fascistes, il avait des propos tranchés du genre « C'est Wagner qui est rusé, Nietzsche qui est naïf. » Ou bien « Le savoir ne tend pas seulement à la postérité, mais à la longévité et à la vie mortelle. Le but inavoué de la science, c'est l'immortalité physique. » Fin de citation de Benjamin. Ajoutez que Bataille, en fin de compte, l'avait prise en grippe. Alors, la question, cette incompatibilité ne venait-elle pas de la position de Benjamin par rapport à votre groupe? Réponse de Klossowski. Il y avait chez les Allemands qui avaient connu le fascisme, à la différence de nous, une sensibilité beaucoup plus grande vis-à-vis de tout ce qui, de près ou de loin, eût pu prêter à confusion. On percevait chez Benjamin un pessimisme prophétique. Il me dit un jour que nous parlions d'entropie, tout va se refroidir. À quoi j'objectais que l'extinction au dehors nous importait peu, que ce qui comptait c'était en nous l'accumulation du feu psychique. Ma fréquentation avec lui, continue Klossowski, devait essentiellement au grand fourriériste qu'il était. Ses tendances mystiques jointes à la description des phénomènes sociaux se combinaient pour finir en une curieuse science astrale. Je le raccompagnais dans le 15e arrondissement. Il me montra à terre le dessin de la Marelle avec le ciel et l'enfer. C'était, selon lui, les vestiges d'un inconscient social archaïque. Il se passionnait pour le Paris ésotérique des Saint-Simoniens, évoquant après Fourier, Cabré, Enfantin, des sociétés secrètes, plus ou moins féministes, et enfin, en concurrence avec sa vision hébraïsante de l'histoire, me parlait du rôle spirituel de l'industrie. Le Question, vous a-t-il fait connaître ses textes ultimes dans lesquels il pense la marchandise comme une allégorie? Réponse de Klossowski, à vrai dire non, mais n'était-ce pas que pour lui la marchandise pût valoir comme l'ombre des biens à venir? Vous ne m'avez pas dit ce qu'il dénonçait chez Bataille. Quand j'ai fait lire à Benjamin, répond Klossowski, la première version de la dépense à laquelle j'adhérais sans réserve, réponse de Benjamin, encore des gibets, encore des potences.
Il y a peu d'auteurs aussi cités que Benjamin. En tout cas, dans le champ dans lequel je travaille, à savoir la théorie de l'art, l'esthétique, Benjamin est une espèce de must. Enfin, c'est impossible de lire un texte quasiment, voire de catalogue artistique, sans trouver Benjamin cité. Et en même temps, je suis tout à fait persuadée que Benjamin, disons, n'a pas été reçu. Bon, alors même que, d'une certaine façon, sa pensée de l'art, en tout cas, a été enregistrée. C'est-à-dire que toute l'histoire qu'il fait on pourrait dire, de l'art occidental depuis le 18e siècle jusqu'à la modernité, enfin sa modernité à lui, je crois que ça a été relativement enregistré dans les consciences et même enregistré par l'art. Hein, cette idée qu'après l'aura vient le déclin de l'aura, que l'aura surtout déclinante ou disparaissante de l'œuvre artistique se voit... on pourrait dire remplacer un moment où l'œuvre devient simplement un objet de transaction sociale et plus du tout un objet d'usage, c'est-à-dire au fond à la fin du XVIIIe siècle. Toute cette analyse au fond de l'esthétisation de la réalité sociale et de la politique qui a été menée par Benjamin, elle n'a fait qu'être, j'allais dire, amplifiée par les masses médias et je crois qu'elle est quasiment entrée dans le regard même que nous posons sur l'art. Et que sa notion de valeur d'exposition est complètement, j'allais dire, acquise. Mais la contrepartie, c'est-à-dire le contrepoison que Benjamin proposait par rapport à cette analyse, c'est-à-dire le développement d'une politisation de l'esthétique, hein, pour parler, moi, du champ qui m'intéresse plus particulièrement, eh bien, je crois que cette chose-là n'a été complètement impensée, a fait mine d'être pensée sous la modalité d'un art relationnel, mais en réalité n'a pas du tout été comprise, tout simplement parce que je crois que notre rapport à l'histoire est tellement perturbé. C'est-à-dire à la fois, au fond, nous ne croyons plus à l'histoire, hein, et en même temps, nous vivons dans une espèce de fatalisme historique assez extravagant. Et je crois que ça crée les conditions pour que Benjamin et la manière dont il essayait d'articuler précisément l'art et l'histoire, l'art et la mémoire, ne soient absolument plus entendus. Et je crois qu'effectivement, dans le champ artistique, peut-être que le seul endroit où Benjamin a été reçu, c'est dans le cinéma, mais ça n'a pas été vraiment traité. Et la seule manière dont il commence à être reçu aujourd'hui, c'est dans ce qu'on appelle le fictionnalisme, c'est-à-dire la revisitation contemporaine de l'art conceptuel. Là, on a l'impression qu'à travers la question de l'exposition, qui devient très très importante dans un certain nombre d'œuvres contemporaines, eh bien, effectivement, disons, cette politisation de l'esthétique dont parlait Benjamin et la critique de la représentation qui sous-tendait cette politisation de l'esthétique, là, commence à émerger, enfin.
Sali maintenant, un peu noirci par le temps, le climat et l'endurance, de l'été, et toujours serein, impénétrable, lointain. Avant que nous regardions à nouveau le printemps, non comme des sentinelles, non comme s'ils défendaient de leurs énormes et monolithiques voies et masses les vivants contre les morts, mais plutôt les morts contre les vivants, protégeant au contraire les ossements vides et pulvérisés, la poussière inoffensive et sans défense, contre l'angoisse et la douleur, et l'inhumanité de la race humaine.
Inoffensive et sans défense contre l'angoisse et la douleur, et l'inhumanité de la race humaine.
Je continue. Alors, elle eut l'impression que son bonheur, pour peu qu'elle attendît, pourrait bien s'enfuir à son tour. Aussi rapidement que cet amas de feuilles brûlé par l'été déréglé.
au fond, quel est le concept qui aurait pu véritablement être reçu dans l'art? C'est le concept d'allégorie. Et c'est l'analyse de l'image photographique. Au fond, ce qui intéressait Benjamin dans l'art, c'était au fond la manière dont l'art pouvait mettre en crise des systèmes symboliques. Et l'allégorie a été, disons, à l'âge baroque, cette mise en crise d'un système symbolique, qui a été paradoxalement d'ailleurs l'opérateur de la transmission de du catholicisme, mais disons sous une forme tératologique, hein, c'est sous une forme perturbée, sous une forme monstrueuse, qui était cette allégorie, à savoir ce signe composé d'une image et d'un sens relié par aucune espèce d'identification possible. Hein. C'est-à-dire qu'on a une image d'un côté, un sens de l'autre, et au centre, rien. Hein. D'un côté, un crâne, de l'autre côté, l'idée de la résurrection, et au centre, le vide. Hein. C'est ça le principe de l'allégorie, qui est un principe passionnant, à mon avis, d'un point de vue formel. Et Benjamin a été extrêmement intéressé par cette manière dont, au fond, l'art jouait comme un opérateur de transmission paradoxale au XVIIe siècle. Et il a essayé de rejouer cette opération, à mon avis, de façon passionnante. Et là, ça aurait pu être entendu, et ça pourrait être entendu, et ça l'a peut-être été d'une certaine façon, mais pas complètement. C'est lorsqu'il a travaillé sur l'image photographique. Lorsqu'il a essayé de bien distinguer de la photographie comme art, c'est-à-dire de la photographie créatrice, créatrice entre guillemets, hein, la photographie artistique, celle du reportage amélioré, hein, bon, on ne va pas donner de nom, une photographie qui est une photographie plus issue du surréalisme ou issue de l'art abstrait, issue également de perspectives plus documentaires, hein, pour lesquelles il a des noms, Germaine Krull, Karl Blossfeld, August Sander, Adjet, naturellement. Et il essaie de penser, au fond, un certain type d'image qui reprend très exactement le schéma de l'allégorie. À savoir que, finalement, comme il le dit très bien dans une photographie de Paris d'Adjet, il est impossible de reconnaître Paris. C'est-à-dire que Adjet joue à fond la dimension d'empreinte de la photographie, c'est-à-dire ce qui fait qu'une photographie ne renvoie jamais à rien. Et que l'image photographique donc, est travaillée par un vide, hein, par tout simplement, elle n'est jamais qu'une empreinte lumineuse d'un réel, hein, qui, par définition, hein, est irreconnaissable. Et dans ce vide qui habite, hein, ou dans ce réel qui troue l'image photographique, se jouent des possibilités d'identification, alors inouïes. Hein. C'est-à-dire que si on commence à réaliser que les photographies ne nous montrent rien, hein, mais que tout ce que nous y voyons, ou tout ce que nous y reconnaissons, ça n'est jamais que nous-mêmes, hein, eh bien, il y a une politique de l'image qui peut commencer à se fonder là, qui devient extrêmement, à mon avis, intéressante, et dont, personnellement, moi, je vois plutôt des effets aujourd'hui dans le cinéma, dans le documentaire, évidemment, bon, le cinéma de Chris Marker, très évidemment, le cinéma de Godard, qui a évidemment beaucoup réfléchi sur Benjamin, Johann von Kalken également beaucoup, et j'en vois assez peu d'effets dans la photographie.
Les poètes sont ceux des mortels qui, chantant gravement, ressentent la trace des dieux enfuis, reste sur cette trace et trace ainsi aux mortels, leurs frères, le chemin du revirement. Mais qui des mortels est capable de déceler une telle trace? Il appartient aux traces d'être souvent inapparentes. Et elles sont toujours le legs d'une situation après pressentie. Être poète en temps de détresse, c'est alors chantant à la trace des dieux enfuis. Voilà pourquoi, au temps de la nuit du monde, le verre speak no more. And my voice be still.
Il y a un tableau de clé dénommé Angelus Novus. On y voit un ange qui a l'air de s'éloigner de quelque chose, à quoi son regard semble rester rivé. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche est ouverte et ses ailes sont déployées. Tel devra être l'aspect que présente l'ange de l'histoire. Son visage est tourné vers le passé, là où à notre regard à nous semble s'échelonner une suite d'événements, il n'y en a qu'un seul qui s'offre à ses regards à lui. Une catastrophe sans modulation ni trêve, amoncelant les décombres et les projetant éternellement devant ses pieds. L'ange voudrait bien se pencher sur ce désastre, panser les blessures et ressusciter les morts, mais une tempête s'est levée venant du paradis, elle a gonflé les ailes déployées de l'ange et il n'arrive plus à les replier. Cette tempête l'emporte vers l'avenir, auquel l'ange ne cesse de tourner le dos, tandis que les décombres en face de lui montent au ciel. Nous donnons nom de progrès à cette tempête.
Il y a quelques tapis d'encre rutilant, brusquement jetés parmi les jeunes blés couleur de jade.
Cécile ! Boum, la bécasse ! Madame s'en va.
Cécile ! La pluie manque depuis longtemps.
Cécile !
C'est peut-être la famine qui mûrit dans cette chaleur d'été et ce parfum d'amande.
Madame s'en va, imbécile.
Ce qui a complètement travaillé 15 ans de l'œuvre de Godard, et sous des formes très variées, c'est-à-dire dans les grands films de fiction, dans les essais, dans les histoires du cinéma, c'est la question du présent et du passé. C'est la question d'abord de l'instantanéité par laquelle doit passer l'histoire, par un rapport un peu fulgurant comme ça entre un instant du passé et un instant du présent, et c'est l'idée de rédemption. C'est l'idée que le présent pourrait racheter quelque chose des fautes de l'histoire. Et ça, c'est le grand projet de Godard par rapport à l'histoire du siècle, puisque Godard dit le cinéma a trahi, le cinéma s'est trompé, le cinéma n'a pas vu les camps, ne les a pas assez annoncés ou a été inefficace pour le faire. Et donc, à un moment, il y a eu une erreur de route, enfin, il y a eu une erreur tragique du cinéma qui, pour Godard, justifie qu'il meure, qu'il soit allé après vers sa mort, d'une certaine façon. Et Godard se place dans une posture extrêmement folle, enfin, qui consiste à dire « Je ne suis plus dans le cinéma contemporain, j'essaye, moi, dans mon petit laboratoire, d'être le rédempteur de cette faute. »
Il devient littéralement l'ange benjaminien, l'ange de l'histoire qui surplombe l'ensemble des catastrophes du passé et qui est là pour à la fois vérifier qu'il ne s'agit que d'une seule et même catastrophe et aurait en effet cette tâche folle de sauver, de racheter.
Cette catastrophe pour Godard, elle est triple. Enfin, c'est la catastrophe de l'histoire, donc du siècle. C'est la catastrophe du cinéma, c'est-à-dire le cinéma manque à sa mission. Et il faudra 50 ans pour que Godard réassume tout seul, sans que personne ne lui demande cette mission, parce que personne n'a demandé à Godard de jouer ce rôle un peu messianique, enfin comme ça, ou de rédempteur. Il se le donne, c'est lourd, hein, c'est-à-dire qu'il se le coltine vraiment. Les gens ne mesurent sans doute pas à quel point, pendant 15 ans, Godard ne s'est posé que cette question. Enfin, pratiquement que cette question sous toutes ses formes. C'est-à-dire Godard a été hanté par cette hypothèse benjaminienne que comment faire revenir un instant du passé pour y remédier. Donc c'est ça en fait le grand projet godardien pendant 15 ans, c'est je pense que c'est absolument celui-là. Et cette catastrophe pour lui, elle est aussi presque personnelle, enfin, c'est-à-dire Godard essaye de comprendre comment lui, adolescent riche, fils de riche au bord du lac de Genève, avec une famille en gros de collabos, comment lui a pu être le contemporain du petit garçon du ghetto de Varsovie.
Thank you. pense être malchanceux. Derrière lui, le déferlement du passé, des galets déversés sur ses ailes et sur ses épaules, avec un bruit de tambours enterrés, pendant que devant lui s'amasse le futur qui lui appuie sur les yeux, les fait sauter comme une étoile, transforme la parole en bâillon sonore, l'étouffe avec sa respiration. Un moment encore, on voit battre ses ailes, on entend les cailloux dévaler devant lui, au-dessus de lui, derrière lui, bruit plus fort quand s'exaspère son vain mouvement, entrecoupé quand il ralentit. Puis l'instant se referme sur lui. Rapidement recouvert, l'ange malchanceux entre dans son repos. Son vol, son regard, son souffle sont de pierre. Il attend l'histoire, jusqu'à ce que reprenne le frémissement de ses coups d'ailes qui se communiquent en ondes à la pierre et montrent qu'il va s'envoler.
Ce poème de Heiner Müller montre très manifestement, Jean Jourdeuil, qu'il y a un écho entre le travail de Müller, poète, et l'essayiste Walter Benjamin. C'est une filiation, peut-être pourrait-on dire un prolongement assez inattendu, parce qu'on a beaucoup mis en avant le rapport à Brecht, le dialogue avec Brecht, y compris l'opposition, la mise en question des thèses brechtiennes. On est beaucoup moins sensible, en tout cas en France, au fait que Müller a lu Benjamin et visiblement est fortement traversé par ces textes.
Oui, en fait, mais je crois que lorsque Müller s'est situé, en quelque sorte, par rapport à Brecht, dès ses premiers travaux, parce que ce poème date de la fin des années 50, donc Müller avait une trentaine d'années, hein, il est né en 29, et c'est un poème qu'il a intégré à une pièce qui s'appelle Le Dieu Bonheur. Mais en fait, Müller, dès les années 50, connaissait Benjamin. Bon, il a dit qu'il n'avait pas songé à Benjamin en l'écrivant et qu'il s'était rendu compte quelques semaines plus tard qu'évidemment ce texte avait une relation étroite avec l'ange de l'histoire des thèses de Benjamin.
Heiner Müller s'est visiblement beaucoup intéressé à la figure de l'ange. C'est une étrange apparition, je trouve. On voit bien, d'une certaine façon, que c'est comme une sorte de corps étranger qui arrive dans l'œuvre de Müller. Quelle place, quel statut lui donner, Jean Jourdeuil?
Effectivement, l'ange intervient de manière récurrente chez Müller. Le premier texte sur l'ange, c'est donc celui que j'ai lu. Mais ensuite, il y a un autre ange qui est l'ange du désespoir qui apparaît dans La Mission. Il y a une allusion en une phrase à la fin d'un texte qu'il avait écrit sur Zyberberg, sur le film de Zyberberg, Hitler, un film d'Allemagne. Et la dernière phrase de cet essai, c'est « L'ange de la Révolution n'habite les cimetières que tant qu'il n'a pas pris son envol. » C'est-à-dire que la question de l'ange revient dans l'œuvre de Müller et elle reviendra encore après la chute du mur de Berlin, lorsqu'il écrira « Un ange malchanceux numéro 2 », là, je n'ai pas la traduction, donc je vais traduire directement de l'allemand, « Entre ville et ville, après le mur, l'abîme, du vent sur les épaules, la main étrangère sur la chair solitaire, l'ange, je l'entends encore, mais il n'a plus d'autre visage que le tien, que je ne connais pas. » Ça, c'est un poème donc peut-être 90, 91, mais enfin postérieur à la chute du mur de Berlin. L'ange, c'est...
Il est donc omniprésent, on sent qu'il ne l'a jamais quitté, cet ange.
Il ne s'est pas envolé. Alors, ça serait très intéressant d'étudier les variations. Je pense qu'il y a chez Müller des choses qui concernent les yeux, le regard, la pierre appuie sur les yeux. Il y a le thème de la pétrification. Bon, il y a l'ange du désespoir la thématique est parfaitement claire. Les anges apparaissent lorsque c'est foutu, lorsqu'on est dans la catastrophe. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'on espère qu'il va se passer quelque chose, que l'ange va reprendre son envol.
père du père de mon père avait une tâche difficile à accomplir. Il se rendait à un certain endroit dans la forêt, allumait un feu et se plongeait dans une prière silencieuse. Et ce qu'il avait à accomplir se réalisait.
Quand plus tard le père de mon père se trouva confronté à la même tâche, il se rendit à ce même endroit dans la forêt et dit : nous ne savons plus allumer le feu, mais nous savons encore dire la prière.
Plus tard, mon père...
Rachel, la femme adultère.
L'Espagnol.
Lui aussi alla dans la forêt et dit... Nous ne savons plus allumer le feu. Nous ne connaissons plus les mystères de la prière. Mais nous connaissons encore l'endroit précis dans la forêt où cela se passait. Et cela doit suffire. Et ce fut suffisant.
Il y a autre chose enfin, qui me paraît très très important par rapport à, au thème sur l'histoire de Benjamin, c'est aussi la question du sacré, du liturgique. Godard se situe exactement au point où se situe Nancy dans ses textes un peu sur la question du sacré, c'est-à-dire il n'y a plus l'acte sacré n'existe plus, la prière n'existe plus, mais il y a la trace des lieux où reste le passage du sacré, reste des traces du passage du sacré. Et quand Godard parle d'histoire, il y a toujours une conjonction avec le sacré. Mais ce sacré-là, c'est-à-dire le sacré comme pure trace qui n'est plus ni véritable. Des lieux où reste le passage du sacré, reste des traces du passage du sacré. Et quand Godard parle d'histoire, il y a toujours une conjonction avec le sacré. Mais ce sacré-là, c'est-à-dire le sacré comme pure trace qui n'est plus ni véritablement prière, ni véritablement acte, ni véritablement rituel sacré. Et Godard, depuis 15 ans, cherche les traces.
Et son cinéma, au fond, est une manière de se souvenir qu'il y a eu ce sacré, qu'il y a eu cette prière. Est-ce que ce souvenir ne peut pas avoir une pente, un penchant un peu nostalgique ? Et d'ailleurs, une des choses qui menace Benjamin parfois, quand il parle notamment de la perte de Laura, il a été souvent lu comme étant nostalgique, comme cherchant une espèce d'âge d'or, ou comme pleurant une espèce d'âge d'or. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette menace-là dans le cinéma de Jean-Luc Godard ?
Godard, il n'a pas de nostalgie. Au sens d'un regret. Godard ne connaît pas le regret. Quand sa position de rédempteur, ce n'est pas du tout celle-là. Pour lui, ça passe par le travail, la pratique, le fait de trouver deux images et de les mettre en rapport. C'est comme un pêcheur de perles ou un Godard, il plonge au fond des films, des cassettes, etc. Et il ne sait pas ce qu'il va trouver. Il attend que les images... des images en détresse ou des images lui fassent signe et demandent à être sauvé par lui. C'est plutôt comme ça que je vois son travail. Et donc, il peut passer, par exemple, des cassettes de documents historiques, enfin, de films d'actualité ou à toute vitesse, parce qu'il attend qu'une image lui réclame quelque chose. Ouais. Ça serait ça, le mot juste. Et du coup, à ce moment-là, il ne peut plus se dérober. C'est-à-dire, il a l'impression qu'il y a dans ce stock d'images en souffrance, certaines attendent de lui le secours. Hélas, pour moi, est le film le plus... où il va le plus loin dans cette affaire-là, les images du passé, une image du passé, une seule image, une femme sort de l'eau où elle était allée se baigner, et quand elle revient sur la rive, elle ne sait plus si l'homme qui vit avec elle est son mari ou pas son mari, si c'est un dieu qui a pris l'apparence de son mari. Et cette image va revenir dans le film, d'Hélas pour moi, à chaque fois modifié.
Or, c'est la même seconde dont il s'agit. C'est-à-dire là, sur la conception du temps qui revient sous une forme légèrement différente, je pense que là, Godard en fait une fiction. Puisque finalement, on pourrait dire que, hélas pour moi, est la fiction de la théorie benjaminienne du retour d'une seconde.
Alors, arrivederci, tous mes amis.
La photographie au service de la propagande. L'invention de la photographie marque le début d'une évolution au cours de laquelle les facteurs déterminants pour le jugement de ce qui est visible tombent de plus en plus hors du domaine du visible. La photographie d'une usine en pleine activité dit moins sur ceux qui y sont employés que la photographie équivalente d'une propriété foncière. Et, de façon analogue, une suite de photographies d'une entreprise de bureau dit beaucoup moins sur la vie des employés que, par exemple, une photo sur le sort des soldats.
Parmi les produits industriels, il y en a un que Benjamin a énormément considéré, remarqué, analysé, c'est la photographie, c'est le dispositif photographique. Je lis un petit extrait. Dans la mesure où l'époque de la reproductibilité mécanique a détaché l'art de son fondement cultuel, c'est l'apparence de son autonomie qui s'éteint pour toujours. Le changement de fonction qui en résulte pour l'art échappa à la perspicacité du XIXe siècle. Et même le XXe siècle, qui connut l'émergence du film, manqua pendant très longtemps ce changement. Tandis que l'on s'était jadis acharné par de vaines subtilités à régler cette question, la photographie est-elle un art ? Jamais l'on ne s'était posé la question. Par l'invention de la photographie, l'art ne s'est-il pas trouvé lui-même transformé ?
Ben c'est clair. Enfin, c'est très clair. Enfin, pour moi, Et puis, il suffit de voir la façon dont la photographie s'est répandue. Elle s'est répandue de fait, indépendamment des querelles de légitimation, qui étaient doubles, en fait. Qui venaient aussi bien des scientifiques que du milieu de l'art. Et qui, de fait, s'est constituée, finalement, en pratique populaire spécifique, par les amateurs.
Jean-Luc Moulin.
Qui inventent les amateurs, en fait, début du 20e, sont ceux qui, justement, inventent l'instantané, qui est devenu presque le signe même de la photographie. Et donc, qui, eux, l'inventent indépendamment, justement, des querelles de légitimation scientifique ou... Bon, pour moi, dire que la photographie est un médium industriel me paraît évident. Moi, ce qui me semble important, surtout, c'est qu'elle ait changé les rapports sociaux. Avant la photographie, pas d'image pour le prolo. Alors, et qu'à partir du moment où il a une image, je veux dire, où il est en mesure de se représenter, où il est représenté, tous les rapports, je dirais, sociaux sont bouleversés. Et la question se repose, quel art dans ces rapports sociaux bouleversés par la photographie? Il n'est pas dit que la photographie va le prendre en charge. Peut-être que les acquis de la photographie sont à prendre au sein des pratiques industrielles aussi. D'ailleurs, ils le font. Hein. Il n'y a plus de produits qui se vendent indépendamment de son image de marque. Hein. L'œuvre se reproduit, se diffuse d'elle-même à chaque fois qu'une présence l'interroge. Alors que le produit se reproduit lui-même par son image, pas par la présence de l'autre. Et ça change quand même assez radicalement le contexte de travail et donc la situation même de l'art. Et ça fonctionne, enfin, éventuellement sa fonction si ça doit en avoir une.
Quand vous disiez que la reproductibilité, en gros, avait changé les rapports sociaux et permet comme ça d'influencer la façon dont les travailleurs eux-mêmes se regardent, ça c'est une intuition assez fulgurante que Benjamin avait eue. Je lis un petit passage.
Et l'intuition du curieux, je dirais, c'est ça qui est bien. L'intuition du mec qui en fait pas immédiatement une montagne. C'est-à-dire qu'il regarde la photographie apparaître.
Et c'est
à une époque où elle est méprisée, ou tout au moins elle est un enjeu de théoricien. Et lui, simplement, il se contente de la regarder apparaître. Et de dire qu'est-ce qui va là changer.
Alors, Un petit exemple qui n'est pas du côté de la photo, mais du côté du film, ce qui revient à peu près au même. L'acteur de cinéma ne joue pas devant un public, mais devant un appareil. Le directeur de la photographie se trouve très précisément à la place qu'occupe le directeur des épreuves lors des examens d'aptitude professionnelle. Jouer sous les projecteurs et satisfaire en même temps aux exigences du microphone est une exigence de tout premier ordre, l'exigence de l'essai. L'assumer signifie sauvegarder son humanité face à l'appareil. L'intérêt de ce jeu est immense, car c'est devant l'appareil qu'une grande majorité des habitants des villes se trouvent dépouillés de son humanité, dans les bureaux et les usines, durant toute la durée d'une journée de travail. Le soir, ces mêmes masses remplissent les salles de cinéma pour faire l'expérience de la revanche que l'acteur de cinéma prend pour elles. Non seulement en affirmant son humanité, ou ce qui leur apparaît tel, face à l'appareil, mais surtout en se servant de celui-ci pour son propre triomphe. Alors, il y a une intuition assez fulgurante et en même temps quelque chose qui aujourd'hui peut paraître totalement désespérant ou désespéré. Parce qu'on a le sentiment à le suivre que le cinéma va permettre aux classes laborieuses, comme on disait, de se regarder elles-mêmes par oui. écran interposé pour ensuite, dans la réalité...
Et dans la logique même de la machine qui l'enchaîne, par ailleurs. Moi, bon, j'aurais tendance à préférer les mecs qui vont se cuiter la gueule que ceux qui vont au cinéma. Voilà, je trouve que c'est une revendication humaine tout à fait de même nature. Tu vois, d'aller se cuiter le samedi soir, je trouve que c'est peut-être mieux d'aller au cinéma. Bon, d'une certaine manière, tu vois, c'est ça d'abord qui me vient. Comment échapper à la machine? Bon, bah, le désordre de la machine. Donc l'extase, la cuite, la défonce. C'est une revendication qui n'est pas prise en compte, mais qui en dit assez long, justement, sur la nécessité de rupture avec la machine, quoi. Bon, ceci dit, ça va quand même assez loin, parce que on est là, Benjamin, enfin dans ce texte, il nous fait rentrer dans la salle obscure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le problème de la visibilité, il y a que la contrepartie de la visibilité, c'est qu'elle se fait sur un fond d'obscurité. Et là, il nous propose de rentrer dans la salle noire pour y découvrir une espèce de deuxième tour de vis, quoi, de l'humain. Bon, mais ça serait assez... Enfin, à mon avis, là, en parler, ça serait complexe, parce que ça supposerait de... Enfin, je sais pas, moi, ces deux bobines, là, me tournent dans les yeux, chacun l'une à droite, l'autre à gauche, quoi. Tu veux, ton texte m'évoque immédiatement l'appareillage même qu'on utilise là, maintenant. Donc, le nagra qui tourne.
C'est-à-dire un appareil...
D'enregistrement.
D'enregistrement, d'appareillage.
Oui. Avec, enfin, je crois que les deux grandes inventions, en fait, moi, qui m'ont saisi, hein, au XXe siècle, c'est l'enregistrement et le mixage, qui sont des fonctions qui sont au travail aussi bien dans la radio que dans le film ou même dans la photographie quand on la présente. Hein. C'est des séquences d'images. Hein. Voilà, enregistrement et mixage sont le mixeur des familles, quoi, le milkshake. Mais en même temps, dans le même esprit, si tu continues à laisser tourner la bobine, je veux dire, on arrive rapidement on débouche, je dirais, sur la transformation de la critique en glisse. Pourquoi tout glisse? Justement, pour ne pas, je dirais, passer strictement dans les fers de l'engrenage. En fait, la critique, tu vois, les mômes qui glissent, qui surfent, etc., on a tendance à dire qu'ils ont perdu toute conscience politique. En fait, pas du tout. C'est une excellente manière d'éviter la machine. Et de se servir même de ces pignons, de ces articulations, pour les surfer et les refuser en même temps. Et toujours trouver, dans cette même curiosité, un espace à figurer. Parce que quand même, le glisseur produit des figures.
Tu connais les pèlerins d'Emmaüs de Rembrandt ? Au moins par la reproduction. Oui, j'ai jeté un coup d'œil au tableau le dimanche où j'ai traversé le Louvre en courant. Mais c'est par la reproduction que je le connais le mieux. Jules Romain, Crime de Quinette. La beauté du film est une beauté non oratique. Cette beauté non oratique se distingue de la beauté oratique en ce qu'elle va de pair avec une netteté poussée à l'extrême. Sa beauté est en communication avec la science. La beauté mathématique pourrait être son modèle. La fonction propre du cinéma est de présenter les choses nettoyées de l'aura en décomposition. C'est le film qui, entre autres, restitue le naturel menacé au plus profond par la perte de Laura, qui nous restitue le paysage. Si la beauté est la promesse du bonheur, c'est le film qui est l'unique promesse qui nous ait été donnée dans les temps d'une impitoyable lutte des classes.
Le doute de Müller à l'endroit du socialisme réellement existant ou du socialisme-stalinisme réellement existant a été extrêmement radical à partir des années 70. À partir de ce moment-là, le problème s'est posé pour lui beaucoup plus de se déprendre des croyances qui avaient été les siennes que de les prolonger, de les réactualiser, etc. Et là, Benjamin est une sorte de maître de comment se défaire, comment parvenir à décomposer ses croyances. Müller n'avait pas les mêmes raisons que Benjamin d'en venir à l'ange, et s'il est bien, c'est d'abord parce que Benjamin, le premier, a donné la formulation première de la question. Quand je dis que Müller n'avait pas les mêmes raisons, c'est que Müller n'avait pas les mêmes raisons d'essayer d'étudier la question de savoir si le marxisme et le messianisme sont susceptibles d'être conjugués ou de ne l'être pas. Je crois que lui perçoit à Berlin-Est, fin des années 40, dans les années 50, quelque chose de cette problématique benjaminienne, parce qu'elle existe dans le milieu des intellectuels et des artistes berlinois. Soit qu'il ne faut pas oublier que, début des années 50, Ernst Bloch, qui lui aussi, autrement que Benjamin, a tenté de faire fusionner le marxisme et le messianisme, enseignait encore en Allemagne de l'Est. Je crois que c'est seulement au début des années 50, est-ce que c'est 54 ou 55, que Ernst Bloch a dû quitter l'Allemagne de l'Est pour aller à l'ouest, après avoir essuyé des contestations par des étudiants, des groupes d'étudiants en service commandé. Cette question du rapport, du présent, de l'avenir, enfin, l'ange est-il tourné vers le passé ou vers l'avenir, lorsque, justement, le mur de Berlin tombe, se produit un phénomène assez curieux, dont il a pu dire que, brusquement, son passé devenait son avenir. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte d'inversion et une sorte de phénomène d'aplatissement du passé, présent, avenir, de la triade passé, présent, avenir, d'aplatissement dans l'omnipotence du présent. Le présent devenait brusquement tyrannique. Et à ce moment-là, son passé devenait son avenir.
En exergue de votre adaptation, peut-être on pourrait dire traduction scénique,
oui.
Vous avez mis un extrait d'une des thèses, non d'ailleurs une thèse complète, le dernier texte que Benjamin a écrit, les thèses sur l'histoire.
Oui.
Vous avez mis donc ce texte avec la marionnette qui vient manipuler le joueur d'échecs pour gagner à tous les coups.
Oui.
Comment est-ce que vous pensez ce rapport entre le processus du journal et ce texte?
Je pense à ce rapport parce que dans le journal, il y a évidemment ce débat incessable entre la formation philosophique de Benjamin et sa nouvelle conviction politique. Alors, cette formation philosophique qui, selon Scholem, elle a été très influencée par certains messianismes, donc métaphysiques, et ce rapport donc au marxisme, matérialisme historique, etc.
Donc il y a un débat terrible à l'intérieur.
Presque un combat.
Un combat, et par moments, il en parle, il dit on peut avoir une conception analogique des choses, c'est-à-dire on peut très bien continuer sur le chemin du messianisme, l'eschatologie, etc. Et puis en même temps, être marxiste, pas marxiste-léniniste, mais bon, être marxiste, quoi, d'être convaincu ou de travailler avec les concepts de matérialisme historique. Et donc, ce texte-là, il met en scène ce débat. Et puis, d'autre part, on voit très bien qu'on sait que Benjamin elle avait une manie de collection. Et il collectionnait beaucoup les poupées. Et autre chose, il dit, par exemple, il y a le poupée qui est habillé d'un habit turc et qui est en train de fumer un narguilé. On sait très bien aussi qu'il aimait beaucoup fumer certaines choses.
Du hachiche,
sur lequel il a créé un livre.
Et il en a parlé, oui.
Il a fait un livre, un petit livre très sympathique. Donc on voit une condensation de certains motifs qui ont traversé son travail dès le début. Et puis, en plus, c'est à la fois une narration, un texte extrêmement poétique.
Peut-être vous pourriez nous lire ce petit texte.
Oui, ça s'appelle « Sur le concept d'histoire ». On raconte qu'il aurait existé un automate qui, construit de façon à parer n'importe quel coup d'un joueur d'échecs, devait nécessairement gagner chaque partie. Le joueur automatique aurait été une poupée, affubulée d'un habit turc, installée dans un fauteuil, la bouche garnie d'un narguilé. L'échiquier occupait une table dotée d'une installation intérieure qu'un jeu de miroirs savamment agencés rendait invisible aux spectateurs. L'intérieur de la table, en vérité, était occupé par un nain bossu, maniant la main de la poupée à l'aide des fils. Ce nain était passé maître au jeu d'échecs. Rien n'empêche d'imaginer une sorte d'appareil philosophique semblable. Le joueur, devant infailliblement gagner, sera cette autre poupée qui porte le nom de matérialisme historique. Elle n'aura aucun adversaire à craindre si elle s'assure les services de la théologie. Cette vieille ratatinée et mal famée qui n'a sûrement rien de mieux à faire que de se nicher où personne ne le soupçonnera. Et donc c'est comme si c'était un conte enfantin en même temps.
Journal. Juin Lépin, le 4 mai 1931, minuit et quart. Les feuilles qui me restent encore de ce papier, je vais les consacrer à un journal. À supposer que mes perspectives ne méritent pas qu'on en fasse grand cas, il devra se tourner vers le passé. Les causes qui me déterminent sont multiples, mais la plus importante est celle-ci. Je suis fatigué. Fatigué avant tout de lutter. Fatigué de lutter pour avoir de l'argent, dont j'ai encore une fois accumulé quelques réserves pour pouvoir être ici. Mais fatigué aussi par les aspects de ma vie personnelle, dont, en ce moment précis, si je fais abstraction de ma situation économique, je n'ai rigoureusement parlant pas de raison d'être insatisfait. Mais cette paix intérieure, que je connais à un degré qui a toujours été pour moi chose rare, me pousse précisément à faire descendre la sonde plus profondément dans l'existence que je mène aujourd'hui. Enfin, cette fatigue s'allie d'étranges manières avec ce qui a fait naître en moi l'insatisfaction relative à mon existence. C'est un sentiment de répulsion croissant, un manque de confiance aussi à l'égard des chemins où je vois les hommes dans la même position et de la même espèce que moi s'engager en Allemagne pour maîtriser la désolante situation politico-intellectuelle. Ce qui me tourmente, c'est la confusion et le flou des dissensions qui existent parmi le petit nombre de ceux qui me sont proches. Ce qui porte atteinte à ma paix intérieure, c'est la disproportion entre l'apprêté avec laquelle, sous mes yeux, on règle de tels différends et l'importance objective, souvent minime, de ces différends.
Et pour ne parcourir entièrement que le cercle des pensées et des forces qui me dominent alors que je commence ce journal, il ne me reste plus qu'à évoquer ma disposition grandissante à me suicider, une disposition qui ne m'est inspirée par aucun sentiment de panique aiguë, mais qui, si profondément liée qu'elle soit à la fatigue du combat que je mène sur le front économique, ne serait pourtant pas possible sans le sentiment d'avoir vécu une vie dont les vœux les plus chers ont été exaucés, vœux où, à vrai dire, je n'ai que maintenant reconnu, dans une certaine mesure, le texte original d'une page recouverte ensuite par l'écriture de mon destin.
Safa Fatih, vous allez vers Benjamin et d'une assez belle façon, on peut dire, puisque votre projet en cours est un projet d'adaptation ou d'appropriation scénique d'un texte assez singulier de Walter Benjamin qui s'appelle « Journal de Moscou » que vous êtes en train de porter à la scène.
Oui, j'ai essayé de dramatiser donc, le journal de Moscou, de le dialoguer entre deux personnages, une voix off et un personnage de comédien sur scène, une comédienne en l'occurrence, Muriel Picard, qui serait sur scène et qui incarnerait donc, le personnage de Benjamin, à la fois le personnage de Benjamin et puis à la fois le personnage de protagoniste donc, de journal de Moscou, qui serait Assia Lassis, donc la personne qui Benjamin voulait rencontrer dans son lieu à elle, Moscou. C'est à travers elle qu'il a rencontré Brecht et qu'il a rencontré, où elle a été décisive aussi dans son projet d'immigration vers Jérusalem. C'est-à-dire, c'est pour ça que Sholem ne l'aime pas beaucoup. C'est qu'elle a interrompu un projet de départ de Benjamin vers l'université hébraïque à Jérusalem, je crois.
Cette femme a été décisive pour Benjamin. On le sent dans le journal de Moscou. Il y a là une relation très forte, une relation, vous le disiez, amoureuse, mais pas seulement. C'est aussi une relation philosophique, politique.
C'est une relation philosophique, politique. En même temps, c'est une relation à la fois qui existait, mais qui était impossible à exister au moment même où ça existait. C'est-à-dire, on voit très bien dans son journal, d'ailleurs, il documente ça d'une façon absolument précise, à quel point il y a comme une espèce de chose qui ne coïncide pas, un sentiment qui ne coïncide pas. Et il cherche à la retrouver, à être avec elle tout le temps, à chercher son regard, à être extrêmement ému par le moindre petit geste amical qui vient de sa part. Et d'un autre côté, il est complètement porté par un mouvement contradictoire envers elle, qui est un mouvement plutôt hostile, qui répond à une espèce d'hostilité qui vient de sa part à elle aussi. C'est-à-dire, ils sont là, dans un face-à-face, qui n'arrivent pas à se résoudre en relation amoureuse tout court. Quoi. C'est un face-à-face non résolu, et un amour qui n'est pas résolu. Là, dans le montage que j'ai fait, c'est une fatigue qui le gagne, qui le gagne, qui le gagne. Et on voit très bien que cette fatigue, elle devient un épuisement absolument ontologique presque. Hein. Et puis, moi, je ne pouvais pas m'empêcher à un moment donné de penser à Kafka. Parce qu'il y a quelque chose comme ça qui, dans sa cyclicité, parce qu'il y a quelque chose qui se retourne sur lui-même, dans sa cyclicité, dans sa répétition, tout ça, qui ne peut conduire qu'à une certaine mise à mort. Je ne sais pas comment, mise à mort, que ce soit par le suicide ou par autre chose, mais il y a quelque chose qui s'épuise à se tourner sur lui-même, comme ça. C'est le propre du tragique. Le propre du tragique, c'est justement dans cette non-adéquation à son temps, à ses choses, d'être un peu en deçà, au-delà, et de ne pas coïncider, justement.
quand on travaille sur Benjamin, en tout cas nous, on travaille sur une pensée protéiforme qui va dans tous les sens, qui parfois même se contredit. On va travailler sur des textes qui ont plusieurs versions, qui ont plusieurs traductions, qui empruntent des fragments qui viennent de partout.
Avec Vautrin.
C'est-à-dire que ce n'est pas une œuvre qui me permet à moi, metteur en scène, de dire « Écoute, c'est ça, regarde », de me justifier auprès de l'acteur en lui disant ça. C'est une œuvre que je suis obligé de poser et de dire « Tiens, là, il y a quelque chose d'intéressant. Ça me parle, ça. Est-ce que toi, ça te parle ?» C'est-à-dire qu'on n'est on est pas dans un partage du majeur. On est dans un partage d'un mouvement, d'une minorité, d'une esquisse qu'on va interroger. Pour nous, Benjamin, sur ce spectacle, était beaucoup plus un témoin qu'un maître. Beaucoup plus quelqu'un qui venait nous confirmer ce que l'on était en train de trouver, les pas qu'on faisait dans cette obscurité, dans cette nuit, plutôt que quelqu'un qui venait nous apporter de la lumière. Souvent, je l'ai retrouvé à la fin d'un processus. Il était là bien avant, aux origines du spectacle, et puis à la fin d'une répétition, je me trouvais écrit dans un texte quelque chose que nous venions de découvrir. Il donnait des forces comme un témoin. Tout notre travail était dirigé sur la tentative de disparition. On parlait entre nous de est-ce que c'est possible de disparaître en pleine lumière, c'est-à-dire de ne plus laisser voir que la lumière et non plus se montrer soi.
Au fond, l'acteur ressemble là singulièrement à un conteur.
J'espère, c'est ce qu'on aurait voulu. Après, est-ce que ça marche ? Mais nous, c'est ce chemin-là qu'on emprunte. On parlait beaucoup de ça, on parlait beaucoup de notre moi, notre autorité. On a beaucoup réfléchi sur cette notion d'autorité, dans le montage par exemple aussi. Est-ce que ça change quelque chose si je dis qu'un texte est de Baudelaire ou si je ne dis pas que le texte est de Baudelaire ? Est-ce qu'on entend différemment ? Avec un montage complexe, comme ce qu'on proposait, on se supprime l'autorité, on ne sait plus qui parle finalement. Je me supprime mon autorité de metteur en scène, plus ou moins auteur, en aucun cas, et je ne l'attribue à personne. La parole. Il n'y a pas un maître qui a pensé. Je ne peux pas dire que c'est Shakespeare qui vient nous dire ce que vaut le monde.
Là encore, vous êtes très proche de Benjamin, qui tronquait les citations, qui les attribuait à d'autres, qui donnait des textes de lui sous d'autres pseudonymes.
Oui.
Il a énormément travaillé sur cette destitution de l'autorité.
Mais oui, justement, parce que quand on la supprime, on se rattache à autre chose, d'un coup. Il faut aller trouver d'où vient ce vouloir dire. Quelle est la source de ce vouloir dire ? La source et non plus la cause. Comment parler de l'acteur autrement ?
On disait que l'acteur est une sorte de conteur à la manière de Benjamin. Il y a une très belle citation de Valéry que Benjamin reprend à son compte, où il dit que justement, le conteur, c'est bien celui qui noue trois choses, l'âme, l'œil et la main.
On cherche des liens tout à fait autres, tout en sachant que ce n'est pas ces liens-là qu'on va exposer. On ne va pas les voir comme nous appartenant. Ces pépites qu'on va trouver dans ce rapport, dans cette triade entre l'œil, la main et l'âme. Il faut la main comme Benjamin parle de comme la main du pot, la trace de la main du potier reste sur le pot qu'il vient de faire. Et pourtant, il a fait un vase et le vase va servir à toute autre chose. Mais sa présence est là.
Benjamin Fragmente.
Jean-Luc Moulin, petit fragment pour commencer de Walter Benjamin. L'industrie et le commerce ont découvert au lendemain de la guerre que le ton pur, les bleus, les rouges, les jaunes éclatants, serait pour eux une bonne arme de guerre. Le cubisme, responsable du ton pur, vers 1919, a permis aux industriels de déclencher cette offensive morale. Quelques années après, dans certains tableaux de la même école, l'objet est apparu. Même conséquence, tout à coup sur ces fonds jaune vif, vert émeraude, les objets publicitaires se sont inscrits en gros plan. À la suite des peintres et des sculpteurs actuels, industriels et boutiquiers ont découvert que les articles de leur commerce avaient une beauté intrinsèque, en dehors de leurs fonctions pratiques et décoratives. Alors, les publicitaires, les industriels, les boutiquiers ont repéré, grâce à l'art,
oui,
que leur travail avait une beauté intrinsèque. Comme si, au fond, l'art n'était pas, comme on le croit souvent, une espèce d'antithèse, une espèce de camp retranché, isolé du monde de l'industrie, mais qu'au contraire, le monde de l'art pouvait parfaitement être un collaborateur, en quelque sorte, du monde de l'industrie.
Le monde de l'art a toujours été, surtout le monde des images, un collaborateur du pouvoir. Bon, ça depuis l'invention des icônes, et il me semble que c'est quand même assez clair, hein, que le rapport à l'économie, de l'image et de l'économie au pouvoir, bon, en tous les cas, on peut les suivre à travers l'histoire. Et que donc maintenant, les industriels continuent, ça me semble tout à fait logique. On a eu quand même un moment historique qui était Warhol, qui a insisté sur cette collusion, je dirais, de l'économie et de l'icône. Mais voilà, l'ambiguïté, c'est que c'est toujours, d'une certaine manière, l'art qui a accueilli les industriels. Et dans le fond, les industriels se sont rendus compte d'un certain nombre de rhétoriques possibles pour eux, pour exploiter leurs marchandises et leurs profits. Quelle est la part d'invention de l'industriel? Quelle est la part d'invention de l'artiste? Quelle rhétorique se joue? En tous les cas, à mon avis, un rapport au pouvoir très différent. Les mêmes rhétoriques et les mêmes modes les mêmes façons de se tenir dans l'espace peuvent être utilisées par les uns ou les autres.
Puis avec l'idée d'un retournement, parce que l'idée que les formes industrielles et cette beauté intrinsèque dont parle Benjamin des formes industrielles, elle peut également ensuite être réimportée dans le champ de l'art. C'est un peu le sens de votre travail, me semble-t-il.
C'est là qu'il y a des ambiguïtés sérieuses, parce que depuis un certain temps, on a considéré que l'art était une élargie, ce qui a permis à l'art d'accueillir toutes sortes de pratiques. C'est devenu, d'une certaine manière, le réservoir des pratiques innommables. Innommable en termes de société, en termes de profession. Donc on a fait rentrer en l'art, celui qui cultivait ses haricots, ma foi, il a pu les cultiver en art, c'était mieux. Bon, et je me demande si c'est bien le geste de Duchamp, par exemple, quand il fait le ready-made. Est-ce qu'il nous indique la possibilité pour l'art de tout accueillir, ou est-ce qu'il nous indique une nécessité qui consiste à sortir, et donc à se confronter effectivement à l'espace industriel? Donc à quitter l'art pour l'espace industriel, qui est peut-être le lieu où se forme la culture vraiment. Parce que, désolé, mais ce n'est pas les artistes qui font que les liens à l'environnement sont comme ils sont. C'est manifestement les produits industriels qui créent ça.
Et sur cette phrase, qui lui était peut-être destinée, peut-être aussi... Il est un peu comme un scribe qui réécrirait plusieurs fois le même texte, qui recopierait plusieurs fois le même texte en y rajoutant des petites enluminures. C'est-à-dire il s'interdit pas, il n'est pas pieux par rapport à un texte, parce que pour lui, ce qui est intéressant, c'est ce qui bouge dans le ressassement. Il y a la part d'immobilité, c'est de prendre une phrase comme celle de Faulkner, qui revient 10 fois en 20 ans chez Godard. Cette phrase qui parle des morts et des vivants et qui dit il faut protéger les morts des vivants. Et c'est la place de Godard. C'est-à-dire Godard, par rapport à Benjamin, c'est intéressant, n'est pas du tout tourné vers les générations qui vont venir. Il est tourné vers les morts. Et parle de plus en plus aux morts. C'est pour ça que les vivants ne vont plus voir ces films.
Est-ce que les morts vont les voir?
Lass mich klug gut sein und umfass mich. Es hebt mich ins Paradies. Ich bin nicht schlecht, kein kläglich. Warum lebe ich
Benjamin
so kläglich?
Fragmente.
Benjamin Fragmente.
So viel, ach, er verzeiht.
Qui a lu Walter Benjamin avec Alain Bergala, Safa Fati, Jacques Henrique, Christophe Jourlan, Jean Jourdeuil, Jean-Luc Moulin, Catherine Perret, Éric Vautrin? De Walter Benjamin, écrit autobiographique chez Christian Bourgois, Fragment, aux Presses universitaires de France, extrait
lu par Thomas Balling, de la Schaubühne à Berlin, et Martial Di Fonsobo. L'équipe de réalisation, Bruno Nivdanski, Patrick Muller, Georges Arrigoni, Catherine Dereté, Bernard Charon, Diffy Mariani, Marie-Christine Closet et Bruno Takels.
Deine Kinder, ich küss jeden und ich wär niemals rum. Aber mein kleiner Hund, den fütter ich immer ganz ordentlich, weil er so klein und alt. Und ich mal auch das ganze Vater unser auf ein rosa Ei für dich. Ja, das mach ich. Liebe mich, Himmel, obwohl ich schlecht bin. Hebe mich hoch ins Paradies. Küss mich.
Ils viennent de la nuit la plus noire, d'une nuit vénitienne, si on veut, faiblement éclairée de lampions, de l'espoir, l'éclat des fêtes dans les yeux, mais chaviré et triste à pleurer. Ils viennent de la démence, de nulle part ailleurs. Ce sont des personnages qui ont passé par la démence, et c'est pourquoi ils restent d'une superficialité aussi déchirante, inhumaine, inébranlable. Si l'on veut nommer d'un mot ce qu'ils ont de réjouissant et d'inquiétant, on peut dire « ils sont tous guéris ».